Actu SF, les podcasts.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette table ronde. Si l'univers est une machine à fabriquer de la conscience, alors la conscience est une machine à fabriquer du mystère. Une citation de Marianne Mucciati que Marc-Antoine Mathieu, merci d'être présent, a tenu absolument à écrire sur le mur de son exposition. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Et après, on va évoquer deux, trois bricoles ensemble. Bienvenue.
Pour cette citation, c'est difficile d'en dire un peu plus, à part qu'effectivement, ça reprend l'idée que peut-être, de la même manière que qu'on sait que c'est la lumière qui sculpte la matière depuis le tout début de l'univers, on peut peut-être se demander si l'univers est une machine à fabriquer de la conscience, puisque les formes les plus complexes comprises la matière depuis le début, c'est effectivement des éléments qui appartiennent au domaine de l'humain. Voilà. Donc, dire que l'univers a tendu vers la conscience, c'est quasiment certain, on peut dire que c'est un constat. Pourquoi il y a cette conscience? Forcément, ça débouche sur cette question philosophique. Pourquoi y a-t-il une conscience? Pourquoi l'univers accouche de la conscience in fine? Moi, je dis simplement que c'est certainement pour générer du mystère.
Alors, on va évoquer un petit peu des questions un petit peu générales avant de parler un petit peu plus de bande dessinée, de récit, tant qu'à faire. Mais effectivement, quand tu parles de mystère, en fait, moi, je t'ai vu travailler sur la mise en place de l'exposition, par exemple. Et j'ai vraiment envie de te questionner sur ton rapport au vide. Parce que tu travailles avec le vide, hein, comme tu travailles avec l'ombre, avec l'ombre pour faire sortir la lumière, entre guillemets, et le vide pour faire sortir ton propos. Et on va dévoiler un petit peu la cuisine interne, en fait. Hein. On a travaillé plusieurs mois sur les plans de l'exposition, en se disant il faut que ce soit ultra précis, parce que forcément, Marc-Antoine Mathieu, il est ultra précis. Et on va essayer de rendre quelque chose de sérieux, entre guillemets, pour ce grand maître qui arrive dans nos murs. Et puis tout d'un coup, j'ai vu une espèce de trublion s'emparer de tout et laisser libre cours à son imagination pour soit remplir les vides, soit en rajouter pour justement justifier un peu mieux le propos. Et du coup, ça m'a vraiment interrogé sur ton attitude même vis-à-vis de la page blanche, en fait, hein, quand tu travailles de cette manière-là, que ce soit sur un espace, délimité comme une page ou sur un espace comme ça en trois dimensions.
Oui, déjà merci Gilles d'avoir fait ce petit morceau de labyrinthe en forme d'exposition. Moi, j'avais jamais fait d'exposition, et pourtant je suis un peu scénographe d'exposition, mais j'avais jamais eu, peut-être eu l'idée de faire des expositions autour du labyrinthe, mais oser le faire, je crois que je m'y serais peut-être perdu. Donc il fallait, une aide de camp, et ça a été toi, et c'est vraiment chouette. C'est-à-dire le fait de faire ce petit morceau de labyrinthe qui finalement fonctionne assez bien, parce qu'on peut s'y perdre et en même temps on s'y retrouve quand même. C'était assez chouette. Après, le montage, c'est pas pareil de faire sur un plan de labyrinthe un plan de montage et ensuite d'y être et de s'apercevoir que ça fonctionne pas forcément. Donc après, on remet des choses, on en rajoute, on en enlève forcément, parce qu'on essaye de donner malgré tout pas une cohérence, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes dans cette exposition, beaucoup de visages, beaucoup de facettes de mon travail. Mais ce qui était important, c'était que le cheminement se fasse sans trop de rupture ou de cassure, que ça se fasse d'une manière un peu, on va dire, calme. C'était ça l'idée. Et ça, c'est effectivement compliqué. Mais ce qui était rigolo, c'était de faire, de marcher finalement deux fois plus que dans une exposition normale. Parce que comme on s'y perd, on a beau connaître le plan, on revient, on repart, on se trompe encore. Donc voilà, c'est une exposition installée qui fait mal aux jambes.
Et les multiples facettes que tu évoques, qu'on voit bien effectivement dans l'exposition, mais malgré tout, on en sort, on a compris tout à fait le propos de Marc-Antoine Mathieu et le fil rouge. Enfin, rouge, excuse-moi d'employer un terme de couleur dans une exposition noir et blanc, quasiment. Mais,
je te pardonne.
Mais le fil rouge de ton œuvre, en fait, toi, tu le décrirais comment, en fait? Parce que moi, j'ai en fonction de tes livres, et on va en parler sur les encore les plus récents qui sont encore, je trouve, de plus en plus profonds et évanescents à la fois. Enfin, il y a un truc de l'impalpable en fait. Ce fil rouge, il est défini. J'ai l'impression qu'il est presque défini en creux finalement dans ton œuvre.
C'est complètement ça. C'est-à-dire que tu en fait, c'est marrant que dans ta question, tu parles à la fois de fil rouge et d'impalpable, parce que en fait, mon fil rouge, c'est justement de pas en avoir. C'est-à-dire que si l'errance est un fil rouge, alors oui, c'est ça. Mais moi, je j'essaye pas. En fait, je fais des histoires, des récits qui ne portent pas de discours. Hein. Mes personnages, encore une fois, sont des personnages en creux qui n'ont pas d'existence propre, qui n'ont pas vraiment de psychologie, ils sont juste là un peu presque des fois, même comme des meubles. Hein. Julius Corentin Kvac, c'est un personnage, c'est le non-héros, c'est le héros en creux. Et parce que justement, il est récipiendaire de tout possible, alors du coup, il va visiter des systèmes, des dispositifs qui sont surprenants et qui finissent par me surprendre moi-même. Et c'est là où c'est intéressant. C'est, on va dire que c'est la récompense de l'errance. C'est-à-dire que si on se laisse aller aérer, on a quand même une chance de trouver des choses, et de trouver des choses qui sont un peu extérieures à nous, enfin, ou alors qui l'étaient, mais on l'ignorait, qui étaient en nous, mais qu'on l'ignorait. Et là, ça devient intéressant parce que du coup, le travail de création, une vraie aventure d'exploration et de trouvailles. Donc, on ne s'ennuie jamais, du coup. C'est un peu ça.
Et quand tu parles d'errance et de finalement se trouver, j'ai l'impression que tu parles d'une boucle, en fait, qu'on retrouve un peu dans le sens. Au départ, effectivement, on se demande quel est le sens de tout ça. Et si on parle de l'affiche, par exemple, l'affiche qui est... Alors moi, je t'en remercie parce qu'elle a été radicale comme je l'espérais, entre guillemets. Mais quoique, il y a quand même du gris, un petit dégradé de gris où j'ai bien senti que du coup, tu essayais de te compromettre avec peut-être le public ou avec peut-être, disons, une image plus classique de l'illustration, entre guillemets, en général, juste par ce dégradé de gris sur les ailes de l'ange. Pour parler de cuisine interne, en fait, le cahier des charges, c'était limite, simplement. Et en fait, si on peut le dévoiler, tu as fait deux propositions, donc, avec l'un, donc, cet ange hubris et le mont rêveur qui est dans l'exposition. On verra peut-être voilà, cette image qui passe à l'heure actuelle, en fait. Et moi, lorsque j'ai vu les deux images, en fait, quand on voit les deux images, j'ai l'impression que tu as traité les deux facettes du propos de la limite, en fait. Soit le dépassement, soit effectivement l'intériorité, parce que dans le Mont Rêveur, bon, ben, on a tous les petits personnages qui montent presque vers la conscience, en fait, et on se dit, est-ce qu'ils vont se jeter dans le vide du crâne pour aller l'explorer, ou savoir quoi, alors que cet ange, on a tout de suite l'image, effectivement, du dépassement de soi et de l'extérieur, en fait. Et c'est comme si, en deux images, tu avais traité la boucle que tu évoques dans quasiment chacun de tes livres, en fait, quoi. Comme un petit peu le décalage où on est dans cette boucle perpétuelle. Quoi, en fait.
Oui, et puis dans le Mont Rêveur, il y a cette idée de l'escalier qui est un peu récurrent aussi dans mon travail. C'est vrai que quand on erre dans notre imaginaire, bah, se fait jour des récurrences. Alors pourquoi ? Ça vient certainement d'une forme de déterminisme. Hein. On a tous des choses en nous qui existent profondément ou même qui préexistaient. Mais dans l'histoire du Mont Rêveur, c'est vrai que le dessin était intéressant aussi, mais il y avait peut-être trop de discours. Dans l'ange hubris, c'est plus intéressant parce que l'image, bon, c'est ce que j'expliquais dernièrement, c'est que c'est une image oxymore, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait le tarmac, qu'il y ait la technologie qui soit extrêmement présente. Et puis en même temps, cet ange avec ce dégradé dont tu parles, qui donne une espèce de douceur, forme une image qui réconcilie la poésie et la science, et un des avatars de la science, c'est-à-dire la technologie et la technicité. Donc il y a à la fois dans cette affiche un peu Elon Musk et en même temps Borges. Et moi j'aime à penser qu'un jour peut-être les deux, enfin les productions des deux peut-être pourraient se rejoindre, même si... A priori, ce sont deux univers totalement ennemis. Mais je pense qu'aujourd'hui, face à ce qui nous guette, au danger qui nous guette principal, c'est-à-dire ne plus parler à l'ennemi, ne plus communiquer avec celui qui s'oppose à nous. Donc en fait, lâcher l'affaire avec l'autre. Je pense que c'est ça le grand danger. Donc cette image, il me semble, est intéressante en plus du fait, sur ce point-là, en plus du fait que peut-être elle offre plus l'interprétation, on va dire, peut-être plus d'interprétation au regard du promeneur dans la ville. Et une affiche, ça doit aussi être ça. Cela dit, j'ai aussi gardé l'aspect illustration, parce que c'est vrai que les affiches utopiales ont cette tradition de mettre en majesté l'illustration et l'art appliqué, quelle illustration figurative. Donc, je n'ai pas dérogé à la règle. Simplement, je suis resté fidèle à mon noir et blanc, quoi.
C'était quand même l'idée, effectivement. Tu parles de poésie et d'Elon Musk. Effectivement, moi, j'ai l'impression que le seul moment de poésie qu'on a vu dans la carrière, enfin, en tous les cas, dans les débuts de SpaceX, ça a été le largage de la Tesla avec le pilote, qui faisait quand même écho à Metal Hurlant et à tout ce qu'on a pu... Enfin, à V-Metal. Donc là, c'était vraiment un clin d'œil. Et est-ce que tu crois que la poésie, par exemple, pourrait intervenir dans le fait, par exemple, d'avoir un ingénieur ou quelqu'un qui a, entre les guillemets, les moyens de mettre... dans la matière, le rêve éveillé des auteurs de science-fiction? Parce que là, bon, avec cette anecdote-là, Elon Musk qui nous a montré tout de suite qu'il avait biberonné de la science-fiction toute son enfance, et ce clin d'œil, est-ce qu'il y a encore un espoir d'avoir cette poésie-là dans la réalité, quand on a les moyens de le réaliser, quoi, en fait? Parce que toi, tu le réalises au travers de tes albums.
Ah bah ça pourrait être un super débat pour les utopiales. Est-ce que la propension à la technicité, c'est-à-dire à le délire du faire en fait humain, peut-il se départir d'une propension naturelle aussi à la poésie? Et ça aussi, c'est un danger de l'époque, à une époque où d'ailleurs les gens confondent souvent science et technologie, ce qui n'est pas du tout pareil. Et c'est d'ailleurs le cas d'Elon Musk. Enfin, il fait semblant de les confondre, mais non, je pense que justement aujourd'hui le rôle de l'art, c'est de faire un pas de côté systématiquement, et c'est un peu désolant de voir que l'art des fois même baisse la garde, c'est-à-dire se met au service de discours trop souvent. C'est-à-dire que par exemple, j'étais à la Biennale de Venise cet été, et c'est très étrange de voir que trois quarts des artistes roule pour le climat, roule pour des faits de société, ce qui est très bien, ce qui est très légitime. C'est normal que l'artiste s'interroge sur le monde où il est, mais c'est un peu dommage que l'art devient presque un discours politique. Et je pense que c'est intéressant que des artistes l'utilisent, mais que ça devienne une tendance lourde, moi, m'interroge. Je pense qu'il y a là aussi, il y a danger, parce que l'art doit impérativement être effronté, il doit être justement dans l'errance. Il faut qu'il puisse rêver à quelque chose d'autre auquel on n'a pas accès, soit auquel on n'a pas forcément pensé. Alors c'est important.
Et comment naît le propos du livre, en fait, entre deux productions, par exemple? Là, donc, on a un nouveau récit qui vient de paraître. Tu vas nous en parler, mais dans le... Ok, le livre est sorti. À quel moment tu repars sur un autre projet? Bon, j'imagine qu'il y en a peut-être plusieurs à la fois. Et la phrase de naissance, le mot de naissance, l'image de naissance, l'émotion de naissance, c'est souvent quoi?
C'est à la fois dans le fond et dans la forme, justement, presque un cousinage avec la science. C'est-à-dire que je lis beaucoup, pas mal d'ouvrages scientifiques, parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Pourquoi? Parce que, non pas pour la science elle-même, mais pour les terreaux, les terrains de rêverie qu'elle engendre et qu'elle fait germer. Qu'on lise aujourd'hui dans le domaine des neurosciences ou de l'astrophysique ou sur la génétique, ça génère forcément des perspectives de non seulement scientifiques et technologiques, mais aussi des mondes possibles, des dispositifs possibles. Et donc, moi, je me nourris beaucoup de ça. C'est donc à l'origine des rêveries. Et puis après, exactement, ça, c'était pour le fond, on va dire, et pour la forme. De la même manière qu'un scientifique, je suis sur ma paillasse, et puis des fois, j'essaye des choses, un peu comme un joueur, un enfant qui s'amusera avec des Legos et qui va, à partir de choses très simples, faire de la complexité. Je suis exactement dans ce cas-là. Et puis des fois, des jeux prennent racine, ces germinations font des choses, et d'autres fois, ça, la plupart du temps d'ailleurs, ça donne rien du tout, ce qui est assez logique. Et puis des fois, ça marche, et des fois, ça fait pas que marcher, mais ça me surprend. Donc, si ça me surprend, il y a peut-être une chance supplémentaire que ça surprenne l'autre. Donc là, on continue et on se dit, voilà. Donc c'est vraiment une question d'errance, c'est une question de lâcher prise. Et c'est des fois même un peu brouillon. Et puis par contre, après dans la réalisation, là, ce qui est important, c'est que ce soit par contre très ciselé et très bien fait. Formellement, il est important pour moi que ce soit évidemment au plus juste.
Surprendre l'autre, ça veut dire que lorsque tu travailles, tu penses quand même au regard soit du lecteur, soit de l'autre, simplement d'une manière immatérielle. Parce que moi, j'avais l'impression que tu t'amusais, mais tout seul en premier, pour te faire plaisir au départ. Oui, et qu'après, s'il y avait ce plaisir, tu disais, bon, il y a un potentiel qu'il fasse naître le même plaisir chez l'autre.
Non, mais c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'il faut avant tout, évidemment, que ça me surprenne. Et si ça me surprend durablement, j'estime que ça peut surprendre l'autre. Parce qu'après tout... on est tous l'autre de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est de toute façon, il y a pas de souci. Non, ce qui importe, c'est simplement d'expérimenter et de se laisser aller à des choses qui, encore une fois, sont là, mais qu'on ignorait.
Et Julius, quand on parle de l'autre, alors, comment il s'impose de temps en temps, en fait ? Comment il revient ? Il y a quelques fois où tu la laisses de côté,
il revient.
C'est la victime idéale ou le mot
oui,
victime
forcément. Le héros
souffre douleur idéal.
Oui, c'est ça. Attends, comment on pourrait dire le héros, c'est le martyr finalement. C'est à la fois le martyr et le compagnon de. Et c'est le petit autre qui est là, quoi. C'est
un double
qui pousse de quelque part. Non, mais c'est vrai, ça peut être un peu comme un espèce de furoncle. Il se calme pendant un certain temps, un truc qui doit sortir, puis après ça se recale et puis ça revient. Enfin, c'est un peu ça, un héros. Hein. De toute façon, les créateurs, ils sont un peu contraints de sortir des choses, sinon ils seraient pas bien. Hein. Donc le héros, bah, lui, il est dépositaire de ça. C'est justement le comment on appelle ça, le symptôme, quoi. C'est le symptôme psychosomatique du créateur, du créateur de bande dessinée ou celui qui écrit des romans. Hein. Mais pour des peintres, ça va être une couleur particulière, par exemple, qui va revenir tout le temps. Enfin, une harmonie de couleurs. Pour un autre, ça va être... Soulage a disparu il y a quelques jours. Bon, voilà.
Ah oui, j'étais en train de... Voilà. Quand tu évoques la couleur, j'étais en train de me dire, attends, là, on est en train de passer dans un truc, la Marc-Antoine Mathieu qui me parle de couleur. Bon, je te taquine un peu là-dessus. Mais effectivement, du coup, je te coupe pour rebondir sur ton dernier opus qui est sorti quand même le jour de la mort de Soulage. Et c'est Black in Black, Deep Me. Donc, ce nouvel objet que j'ai eu l'opportunité de feuilleter simplement. Alors, Deep Me, on creuse encore plus loin, quoi, en fait. Moi, les premières pages, j'avais l'impression d'être, comme on en a parlé, dans Johnny Got His Gun. Donc, noir et blanc, pas super gay.
Non, ça démarre, c'est pas très drôle ce qui arrive à Adam. Non, c'est vrai que le livre est sorti le jour de la sortie justement de Pierre Soulage, donc ça fait curieux parce qu'il y a une espèce de coïncidence comme ça un peu étrange. Parce que Deep Me, c'est un livre que j'ai voulu effectivement totalement noir, un peu comme un monolithe, puisque comme son nom l'indique, c'est une espèce de retour à soi. Donc on suit ce personnage qui se réveille dans le noir total.
Qui ne sait pas
pourquoi il est là. Il est dans le noir total, il ne peut pas bouger, il est paralysé, il ne peut pas parler, il n'a plus de mémoire, il ne se souvient de rien. Et par contre, il entend des gens qui parlent autour de lui, etc. Donc il sait pas, il ignore tout de cette situation, à part sa paralysie. Donc c'est un peu un locked-in syndrome. Et à partir de là, bon, il va essayer d'enquêter, de... de son point d'obscurité, il va essayer de faire tout son possible pour essayer de comprendre pourquoi il est là. Et voilà, et j'en dirai pas plus. Ça démarre un peu comme un thriller psychologique et puis ça va continuer sur un thriller plus philosophique. Je ne sais pas si on peut dire ça. Voilà.
J'ai l'impression que l'épurement devient radical, quoi.
Oui, non.
Le prochain Marc Antoine Mathieu, ça va.
Tu disais que j'avais creusé plus loin. Non, j'ai simplement été creusé ailleurs. J'ai quelqu'un qui va creuser un endroit, puis après j'ai creusé ailleurs. Des fois, je reviens recreuser dans une ancienne mine, mais bon, je fais des trous comme ça. Le trou, c'est un peu aussi, enfin, creuser quelque chose, creuser un trou dans le sable, c'est aussi une forme d'errance. On ne sait pas ce qu'on va trouver. De temps en temps, on va tomber sur un coquillage. Je sais pas. Enfin, c'est un peu ça. Donc. C'est un des trous de l'errance.
Donc Julius, dans ce trou, il est où ?
Bah, il est quelque part dans le sable. Il reviendra peut-être. Ouais, il y a quelques pistes, forcément, parce que après 7 livres de Julius, Julius a fini par exister. Il a fini par exister en propre. Là aussi, c'est un des résultats de la création, c'est qu'on fait des choses exactement comme en science d'ailleurs, l'homme a fabriqué des outils, puis ensuite les outils ont fini par fasciner l'homme. De la même manière, un créateur, il crée des univers, il crée des personnages, et après les personnages reviennent. Et à quel moment un personnage peut même changer un peu votre vie, ça c'est une question assez intéressante. Mais Julius est toujours un peu vivant, mais là simplement il est en sommeil, quoi. Est-ce qu'il se réveillera un jour ? Ça, j'en sais rien. Je le force pas non plus à revenir. Hein. Il reviendra tout seul.
Et si on parle du cadre, alors le cadre du gaufrier, entre guillemets, de la bande dessinée, bon, avec toi, c'est quand même difficile de parler du cadre du gaufrier, mais bon, il y a quand même une page délimitée par un objet livre que tu as quand même pas mal explosé. J'imagine que ça va continuer, que tu vas encore plus nous surprendre de temps en temps. Et j'ai l'impression que Julius, il est largement depuis longtemps sorti du cadre, en fait. Et le vide entre les cases de la bande dessinée, moi, c'est un truc qui me fascine toujours. J'ai l'impression que malgré toutes les milliers de parutions chaque année, on a encore des choses à explorer dans cette gouttière-là entre deux cases, en fait. Moi, quand j'entends tes propos sur Dieu et sur le mystère de l'univers et que je te vois presque le faire vivre au lecteur, par le vide entre les cases, en fait. J'ai presque envie de... Enfin, si je me laisse aller à la lecture et à des réflexions un petit peu métaphysiques, j'ai l'impression que tu es en train de nous dire que quasiment Dieu a été créé de la même manière qu'on crée le récit entre deux cases, en fait, juste par la peur du vide. Et que c'est presque un automatisme qui serait peut-être comparable, en fait.
Tu parles de Dieu et du vide.
Je sais pas, c'est toi qui parles de Dieu et du vide. Je savais que ça allait être un peu abstrait aujourd'hui.
Non, mais qu'est-ce que c'est que la perception ? Qu'est-ce que c'est que la conscience, finalement ? La conscience, c'est une reconstitution, une réinterprétation d'un réel supposé. C'est-à-dire que, bon, le réel, on parle tous du réel, de la réalité objective, mais une fois qu'on a dit ces mots-là, et qu'on creuse et qu'on essaie de comprendre ce que c'est que le réel, en fait, c'est juste une interprétation que tout un complexe extrêmement dense et touffu du cerveau reconstitue en permanence. Et donc, partant de là, une fois que ça s'est établi, et c'est un fait objectif, hein, les neurobiologistes, et ben, au niveau de l'humanité et au niveau de l'individu, il s'agit de reconstituer et surtout de boucher des trous. On a tous des trous, l'humanité a des trous, il y a des inconnus. On va inventer Dieu, un Dieu, des dieux, des raisons. Peut-être même que la science, le débat reste ouvert, peut-être que la science est une façon de faire un grand récit qui nous réconcilie tous, et c'est une façon peut-être de boucher un trou énorme et en même temps magnifique, peut-être. Y a-t-il vraiment une réalité objective différente de nous dont on pourrait se détacher et puis décrire cette réalité complètement objectivement? Personnellement, j'y crois pas. Je crois qu'on est enchâssé, en fait, dans une réalité, et vouloir la décrire objectivement, on comprend bien que c'est vain, c'est pas possible. C'est ce que je raconte un peu d'ailleurs dans l'origine. Julius, il s'aperçoit qu'il est dans un monde en 2D, et il imagine qu'il peut y avoir un monde en 3D, mais il peut l'imaginer, il peut le supputer, mais il ne peut pas en décrire des lois. C'est impossible, puisqu'il est dans un schéma 2D. Et de même, nous, dans notre monde très étriqué, tridimensionnel, ça va être compliqué de vraiment décrire d'autres lois. Par contre, grâce à la mathématique, on peut lever le voile. Mais ce voile, le lever complètement, j'y crois pas trop. Je pense que, comme Bernard d'Espagnac, que le réel, effectivement, est voilé, et peut-être d'une manière définitive. Mais peu importe, encore une fois, ce qui importe, c'est le chemin pour essayer de le lever toujours un peu plus, ce voile. Alors, pour revenir à la question, donc ça c'est au niveau de l'humanité et de l'aventure humaine, mais au niveau de l'individu lui-même, de la même manière, on bouge continuellement des trous, et c'est l'intérêt de la bande dessinée, mais aussi d'un certain cinéma, c'est d'offrir au lecteur, au visionneur, au regardeur, au promeneur, des schémas narratifs où il y a des trous. Bon, dans la bande dessinée, ça s'appelle l'espace intericonique, cette petite bande blanche, mais ça peut aussi être des pages blanches entières, ça peut être des ciels blancs, ça peut être... Et dans ces espaces vides, notre cerveau, nos neurones, notre intelligence va interpréter, elle va créer des choses. Et donc, on est dans un médium, la bande dessinée, qui est pourtant un art figuratif, mais qui produit une forme de récit un peu invisible. Moi, je suis persuadé que notamment les dessins, on va dire, de la ligne claire, sont un peu faits pour être invisibles. C'est-à-dire qu'au début, bon, okay, vous lisez les dessins, ça vous plaît, vous commencez, puis à un moment donné, vous finissez par plus les voir. Il y a une espèce d'intrication texte-image qui fait qu'au bout d'un moment, normalement, si c'est bien fait, vous êtes porté par une espèce de mouvement interprétatif en permanence du cerveau qui fait que finalement vous suivez le récit sans vraiment prendre conscience que vous lisez une bande dessinée, de la même manière que dans certains romans vous ne prenez plus du tout conscience que vous lisez des lettres, des mots. Donc je pense que la bande dessinée a aussi à voir avec ça. Donc cette ellipse continuelle, elle est constitutive en fait d'un médium artistique qui fait que du coup le lecteur devient à son tour créateur. Ça devient un échange, ça devient très fécond. Voilà. Donc pour quelqu'un comme moi qui aime, enfin qui a une propension à la rêverie, bah, c'est parfait parce que ça permet de rajouter des ellipses, de proposer des champs interprétatoires. Et le lecteur s'y trompe pas parce que effectivement, j'ai des lecteurs qui me suivent quand même depuis maintenant pas mal d'années.
Et lorsque tu fais ton récit, enfin, je vais, admettons même de storyboard ou autre, il est complet avant d'attaquer. Tu testes tes ellipses auprès de lecteurs victimes ou. Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a eu même des anecdotes où vraiment il y a des ellipses qui ne marchaient vraiment pas, où tu t'es rendu compte que toi, tu avais fait le grand écart ?
Il y en a certainement qui ne marchent pas. Enfin, de toute façon, on ne peut pas être dans l'exactitude. J'ai lu suffisamment de bandes dessinées, vu suffisamment d'images pour maîtriser un peu la chose. Après, effectivement, il peut y avoir des erreurs, mais globalement, on va dire, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Après, il y a des gens qui rentrent et des gens qui rentrent pas. Ça, c'est autre chose. On n'est pas obligé de rentrer dans une forme de radicalité, de noir et de blanc. C'est pas forcément si évident. Il y a aussi des particularités de scénario. Les livres, les albums sont différents, les histoires sont différentes. Elles peuvent évidemment pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Mais pour revenir à ta question. Oui, le texte prime, les rêveries prennent forme sous forme d'un texte au début. Et j'ai besoin de ce corpus, c'est ce qui me fait dire que je suis plus d'ailleurs, je suis peut-être plus un chercheur de mots et de dispositifs avant d'être un dessinateur. Ça, c'est quelque chose qui est important à dire, c'est que mon dessin, encore une fois, c'est de l'art appliqué, c'est pas du beau dessin, c'est juste un dessin qui doit être efficace, exactement comme une typographie hein, d'un livre, mais une typographie, elle doit être belle. En fait, peut-être un dessin, mon dessin est peut-être seulement ergonomique, voyez, ergonomie. Mais l'ergonomie n'est pas étrangère à l'esthétique. Le Bauhaus, c'était un peu son idée, c'était de réconcilier ergonomie, enfin, un de ses objectifs, c'était de relier ergonomie et esthétique. Je pense qu'inconsciemment, j'essaye de faire ça, de faire un dessin qui soit extrêmement lisible, qui porte parfaitement, pas que le texte, mais qui porte cet ensemble, hein, texte-récit, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Voilà, et en même temps, à partir de là, à partir du moment où il porte bien, où cette ergonomie porte bien le discours, ça devient fluide et la chose s'écoule. La chose doit s'écouler. Voilà, dans ce sens-là, effectivement, le formalisme est peut-être important. Oui.
Et le jeune Marc-Antoine Mathieu, donc. À l'âge où certains lisaient Strange, toi, tu bouffais des catalogues du Bauhaus.
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis pas du tout. Quand j'étais ado.
Qu'est-ce qui s'est passé, là, entre-temps?
Non, j'ai découvert le Bauhaus beaucoup plus tard. Non, j'étais très ignorant de tout ça. Au contraire, non, j'étais plutôt dans Tintin, Pilote, puis après Métal Hurlant. Bon, j'avais mes aînés qui, eux, avaient quelques années d'avance. Donc, je récupérais un peu les Pilotes un petit peu avant les autres. Donc ça, c'est les Pilotes, les Métal Hurlant, puis ensuite les Gottlieb, Bretéché et compagnie, et puis à suivre. Donc j'avais toujours un petit truc d'avance, mais j'étais très dans la bande dessinée. J'ai découvert l'élargissement artistique beaucoup plus tard aux Beaux-Arts.
Et tu es scénographe aussi, hein. Le passage du... Alors là, du coup, on est en plein danger, parce qu'en fait, le passage de la 2D à la 3D, toi... En tant que vaguement avatar de Julius, en fait, tu le vis comment, en fait, parce que tu alternes entre les projets 3D, scénographie, aménagement, et tes travaux sur la planche. J'imagine qu'il y a une espèce de jeu étrange systématiquement qui peut-être te dépasse, quoi, apparaît, te dire tiens, dans un espace, tu vois apparaître finalement une de tes cases, quoi, en fait.
On pourrait parler de respiration, c'est-à-dire que faire que de la bande dessinée, je pense qu'intuitivement j'ai compris que ça pourrait être dangereux, peut-être. Alors dangereux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une forme de peur, peut-être même un peu de lâcheté de ne pas avoir fait que de la bande dessinée? Après tout, c'était peut-être ça ce qu'il fallait faire, mais dessiner quand même des cases. Pour vivre de la bande dessinée, il faut dessiner beaucoup, beaucoup de cases. Et je pense quand même qu'il y a un peu un acte d'enfermement. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, pour moi. Et le fait de pouvoir respirer avec la scénographie, ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti très tôt. Bon, cela dit, je faisais aussi un peu de sculpture. Hein. Encore une fois, c'est d'autres trous que je creuse. Exactement comme il peut m'arriver aussi de faire un peu de musique ou de choses. Bon, je suis un peu touche à tout. Donc, il y a un peu de dispersion aussi là-dedans, mais il faut se disperser pour trouver les chemins aussi qui vous sont propres. Et la scénographie, ce qui se passe, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Philippe Leduc, avec laquelle on a créé Lucilum. Et ça, ça fait partie aussi des rencontres qui vous façonnent. Ça fait partie de l'errance. C'est-à-dire que l'errance, c'est pas seulement un trou où on est tout seul, mais c'est un trou où, de temps en temps, on rencontre d'autres personnes qui vous amènent énormément. Et là, ce binôme qui est aujourd'hui maintenant un trio, c'est une aventure qui a duré 30 ans, plus de 30 ans, et dans laquelle nous aussi, on erre, même si on fait de la scénographie. C'est pas, on est tous les trois plasticiens, mais c'est quand même aussi de la réappliquer. C'est-à-dire que c'est créer des espaces, créer des dispositifs au service d'un thème. Alors, on a un peu scénographié de la bande dessinée sur Angoulême, mais on a aussi fait des installations qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'installation poétique, hein, ce qu'on appelle des fois un peu des féeries. Alors, on va de l'un à l'autre. On cherche pas non plus à vouloir faire que de la scénographie. Donc, on a réussi à faire un atelier qui nous laisse libre aussi de vivre nos chemins individuels. Et ça aussi, c'est une vraie qualité de l'atelier Lucie Lhomme.
Une petite remarque extérieure, en fait, quand tu en parles de cette manière-là, je me dis, mais en fait, tu vis réellement ton art, ton personnage, j'allais dire, en fait. Parce que quand tu. Enfin, moi, dans ton travail, il y a vraiment un sentiment de liberté absolue, en fait, moi, qui apparaît, je trouve, dans le format des livres, enfin, les différents récits, ton travail en 3D, tes interventions à droite et à gauche. Quand tu évoques le mot liberté, on te voit. Et quand tu évoques le mot case, là, on sent l'enfermement immédiatement, en fait. Et je trouve que c'est assez rare, en fait. C'est assez rare dans les arts graphiques en général, que ce soit l'illustration, la bande dessinée et autres. Je trouve que c'est assez rare de rencontrer un artiste complet qui a l'air d'être. C'est impossible de le détacher. C'est impossible de te détacher de ton œuvre, en fait. Tu vois, et je trouve que c'est assez rare, en fait, dans les artistes qu'on côtoie, en fait.
J'ai pas l'impression. Je pense que si on creuse un peu, on retrouve toujours. Enfin, à partir du moment où c'est juste, effectivement, où c'est justement, je pense que s'il y a de l'errance, encore une fois, s'il y a de la rêverie, s'il y a de la rêverie propre, si créer, c'est autant tendre vers une forme d'universel, l'autre, et revenir à soi-même, forcément, on retrouve. On retrouve forcément l'œuvre et le miroir, je pense, du créateur, il me semble. Oui. Après, c'est vrai que dans la création dite artistique, y a beaucoup de choses qui sont peut-être des fois, oui, plus de l'ordre de la communication. Il y a un effort de communication c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Biennale de Venise. On s'aperçoit que beaucoup d'œuvres, c'est de la communication, la communication très sophistiquée, très 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 forte parfois, mais ça reste de la communication. Rien n'est bouleversant, tout est intellectuel, quoi. Oui, la bande dessinée n'y échappe pas, hein. Et d'ailleurs, c'est aussi et le cinéma et toutes les œuvres d'art, mais c'est elles tirent justement leur légitimité aussi peut-être de ce côté un peu extérieur à la rêverie et de nous embarquer dans quelque chose de peut-être uniquement divertissant, mais ce divertissant est tout aussi légitime et important que de faire des œuvres, on va dire, plus profondes ou plus poussées ou plus creusées.
Oui, c'est pas la communication à tout craint. Enfin, c'est tu fais de la communication aussi, j'imagine, avec le
studio. Bien sûr, il y a une part, bien sûr, surtout dans l'art figuratif, oui.
Les prochaines aventures de Marc-Antoine Mathieu, les prochaines aventures. Là, j'ai vu récemment, je ne sais plus, il me semble avoir vu passer une espèce de concours, par exemple, où il fallait poser un dossier pour aller faire une peinture ou une œuvre d'art pendant un vol en apesanteur. Ça ne t'intéresse pas, ça ?
Je sais pas. Bah, ça dépend avec qui. Déjà. Si c'est tout seul. Non, mais pourquoi ? Non, mais c'est ça. C'est toujours pareil. C'est avec qui, quand, pourquoi pas ? Bon, pourquoi pas ? Bon, après, aujourd'hui, voilà, on va me taxer, on va me dire, ah non, mais il va faire des vols en apesanteur. Bonjour le bilan carbone. C'est vrai que ça fait le coup de crayon à plusieurs kilos de CO2 chaque.
C'est vrai que tes originaux, les originaux carbone,
je sais pas si
c'est du noir
ou la verge pour me faire battre. Je sais pas. Non, mais non, par contre, non, mais oui, si l'expérimentation vaut le coup et si justement elle est. Alors, bon, forcément, me connaissant, je vais aller faire un dessin contre le vol en apesanteur. Je sais pas. Mais. Non, je préfère des. Non, mais il y a tellement d'expérimentations folles à faire sur Terre. Je me dis, faisons déjà celle-là, peut-être. Et puis, même si j'adorerais faire un vol en apesanteur, évidemment, comme tout le monde. Il y a un peu des limites, quoi.
Si vous voulez, on passe à des questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de faire tourner un micro, mais n'hésitez pas, parce qu'on est là tous ensemble, en fait. Et. Malgré l'enfermement dans la case de Julius et de certains des autres personnages de Marc-Antoine Mathieu, on a bien compris que dans l'œuvre de Marc-Antoine, l'important c'était quand même l'autre, Donc je pense qu'il serait très heureux de communiquer avec vous en direct. Donc n'hésitez pas à lever la main s'il y a un micro qui peut circuler. Je ne sais pas. Il y a une main au premier rang, mais je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Non, côté... Ah si, il y a un micro qui circule. Attention, il arrive sur deux jambes. Merci, monsieur le micro qui circule.
Bonjour. Vous avez souvent parlé du rêve qui vous serve pour la réalisation de vos images. Et j'aimerais savoir quels sont justement vos rêves à vous qui vous nourrissent artistiquement et pour raconter vos histoires. Est-ce que vous avez une expérience particulière avec le rêve par rapport à vos propres expériences ?
Oui, j'en ai une. Enfin, j'en ai même qu'une. C'est l'histoire de la voiture symétrique que j'ai retranscrit fidèlement dans une des pattes de mouche à l'association. Et c'est un rêve que j'ai fait qui est complètement incroyable et qui est tellement que j'ai trouvé tellement fou que j'ai tout noté et je l'ai fait très très fidèlement. Mais c'est le seul. Sinon, j'ai toujours la frustration de pas rêver assez. Et c'est sans doute un petit peu pour ça d'ailleurs que j'ai une tendance à être dans la rêverie, mais aussi dans le rêve. Et la voiture symétrique, bon, enfin, je sais pas, vous direz peut-être, c'est un petit récit très court, mais c'est un enchaînement de cause à effet avec des associations d'idées complètement oniriques, c'est-à-dire que c'est un conducteur qui est au volant de sa voiture. Et puis, à un moment donné, il se rend compte que sa voiture roule en marche arrière. Alors il se dit, bon, c'est bizarre. Alors du coup, il se retourne. Et en fait, le pare-brise arrière devient le rétroviseur. Et puis la voiture qui est devant roule à l'envers, enfin, etc. Il y a toute une histoire comme ça avec le conducteur de la voiture précédente qui a des yeux derrière la tête. Bon, enfin, c'est une espèce de jeu de miroir comme ça en permanence, recto verso. Et ça donne un résultat un peu étonnant. Bon, après, il faut rentrer dedans, quoi. C'est un peu, enfin, le problème des rêves, c'est que les vrais rêves, comment dire, je ne sais plus qui disait qu'on a toujours du mal à croire aux rêves des autres. Il y avait quelqu'un qui disait ça, un auteur, je ne sais plus qui. Et c'est vrai que des fois, la manière qu'a le rêve de tordre la réalité, j'ai l'impression qu'elle nous est propre. Donc c'est un peu une gageure de retranscrire le rêve. Faut vraiment être un grand artiste pour faire ça. Moi, j'en connais un, c'est David B. Je trouve que c'est un auteur de bande dessinée extraordinaire qui arrive. Alors, c'est pas qu'il retranscrit les rêves, mais c'est qu'il redonne l'esprit du rêve. Et c'est des vrais trésors à chaque fois.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, sur la droite, là-bas. En attendant, est-ce que si je peux me permettre, tu rêves en couleur ou en noir et blanc ?
Alors, je pense rêver en couleur, a priori. Il n'y a pas de raison, puisque en fait, nous, on est formaté, on est connecté, on est complètement algorithmé pour rêver de la couleur, pour voir de la couleur. Donc, il n'y a pas de raison que le rêve ne soit pas en couleur. Mais je me souviens d'un rêve où j'avais inventé une couleur. Une couleur nouvelle, c'est un truc de fou, c'est un peu comme les rêves quand on vole, quoi. Une espèce de découverte incroyable. Et en fait, ça tournait au cauchemar parce que je n'arrivais pas à expliquer aux autres comment était cette couleur. Il fallait que je le partage aux autres, mais je réalisais que c'était proprement impossible, que cette couleur toute particulière, cette nouvelle couleur, elle ne partageait que. Elle n'appartenait qu'à moi. Comment un rêve magnifique peut tourner au cauchemar ? On revient à ce qu'on disait tout de suite.
Je crois qu'il y avait, je ne sais pas si c'était pas Mandrika qui avait fait l'homme au costard Gludur.
Ouais,
Gludur, c'est difficile à décrire.
C'est ça, exactement.
Une question ?
Oui, bonjour. J'ai découvert votre travail récemment. Je suis ici. Et moi, la première chose qui m'a frappée, c'est la quasi-absence de personnages féminins. Est-ce que vous avez une explication ?
Sur scène aussi.
Ah, alors, bon, Alors ça, c'est la question qui revient à chaque fois. Alors, j'ai plein de réponses possibles. Bon, alors, je vais revenir à la Genèse, c'est-à-dire qu'au départ, dans Julius, effectivement, il n'y a pas de personnage féminin. Pourquoi ? Parce que Julius découvre qu'il a été généré par un démiurge, moi. Donc, c'est un personnage en 2D, c'est un personnage de bande dessinée. Donc, le pauvre, il est enchâssé dans un monde qu'il ignore, le monde 3D dans lequel moi je suis auteur et qui le crée. Donc à partir de là, je m'étais amusé à continuer la logique, c'est-à-dire que s'il était créé par un démiurge, il ne pouvait pas y avoir de monde sexué. Donc le fait qu'il n'y ait pas de femme dans l'histoire de Julius est lié au fait que Julius n'a pas de nombril. Et tous les personnages de Julius Corentin Hackfight n'ont pas de nombril. Après, il n'y a pas de femme. Alors, à chaque fois, on dit il n'y a pas de femme, mais personne ne m'a jamais dit, mais il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de montagne. En fait, Julius Corentin, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. En fait, c'est ça le truc. C'est que il n'y a même pas d'être vivant, parce que Julius, encore une fois, c'est un personnage en creux. C'est dans le début de la fin et la fin du début, on découvre qu'il est creux. En fait, c'est une coquille vide. En fait, c'est un espèce de personnage de rêve. C'est un personnage qui est constitué en permanence. C'est une reconstitution permanente d'une enveloppe formelle. Et elle est juste là pour mettre en valeur un univers, un dispositif dans lequel le lecteur, lui, va habiter. C'est ça, en fait, le principe d'une création. C'est pas de faire quelque chose qui aurait du sens. C'est de faire quelque chose qui prendrait sens dans l'acte de lire. Voilà. À partir de là, il n'y a pas de femmes. Oui. Après, si, il y a des femmes dans le dessin, il y a des femmes dans Dieu en personne, il y a des femmes dans Deep Me, qui s'appelle Lucie d'ailleurs. Donc, c'est quand même la lumière. Donc, voilà, je fais quand même des efforts. J'essaye de mettre des femmes.
Moi, je voulais vous poser la question sur la dimension spirituelle. Enfin, je ne sais pas, vous parlez de beaucoup de. Vous revenez souvent à la simplicité, à dire que voilà, c'est un personnage en creux, etc. Mais moi, je ressens beaucoup de spiritualité. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose, un message que vous voulez, ou quelque chose que vous voulez faire ressentir ? Et puis sur l'immatériel, sur l'invisible, sur tout ce qui est insaisissable, en fait. Voilà.
Donc le mystère. Je pense que l'aventure de la création, ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est la beauté de cette aventure-là, la chance d'avoir cette aventure de création, d'être pris par cette volonté de faire, c'est de, encore une fois, de dévoiler des choses. Donc forcément, c'est spirituel. C'est-à-dire que si on veut dévoiler des choses, c'est forcément des choses qui ne sont pas matérielles, parce que si elles étaient matérielles, il suffirait d'aller les chercher dans le monde réel. Donc toute aventure qui tend à aller vers l'autre ou à un minimum d'universel, je pense qu'elle est, spirituelle. Et même dans des choses très triviales, je pense que Gottlieb, par exemple, était quelqu'un de très spirituel. Mais, bon, lui, sauf que lui, ce qui était fort, c'est qu'il était dans les deux sens. Il allait vers le spirituel et il était aussi spirituel. Ça, c'est le signe des grands.
Et surtout la coccinelle.
Et la coccinelle, bien sûr. Ça rime avec spirituel.
Oui. Si je peux raconter une petite anecdote pour appuyer le propos de Marc-Antoine. Et j'ai l'impression que peut-être la spiritualité, même dans ton récit, dépasse même le démiurge ou le créateur ou l'artiste. Parce que la petite anecdote suivante, moi, elle m'a fait croustiller de rire. C'est-à-dire qu'on fait l'exposition, on a des limites, comme dans une case, en fait. Donc forcément, on a des cloisons, par exemple, à 2,20 m. Et forcément, Marc-Antoine Mathieu m'amène une image, Dieu, un chaos. On est dans le thème de la limite, cette fois-ci aux utopiales, et il m'amène une image de Dieu, un chaos, qui fait 3 mètres de haut. Et donc là, je me rends compte que Dieu, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il est simplement. Il est, et il dépasse déjà les limites, en fait. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose dans la spiritualité de récit, du récit qui dépasse même le créateur, là, du coup.
Oui, bah, cette histoire de Dieu, un chaos, bon, c'est marrant parce que... Moi, disons que Dieu, c'est à la fois tout et rien. C'est ce que j'essaye un petit peu de faire dans cette image, puisque bon, c'est 20, 25 pixels par 40 pixels. Donc ça fait 1000 pixels. Et 1000 pixels en informatique, ben, c'est un chaos. Et ce qui est marrant, c'est qu'un chaos, phonétiquement, c'est aussi du chaos. Et puis c'est un chaos, quoi, un knockout aussi. Donc bon, c'était un peu rigolo. C'est... Enfin, ça, on a tous un peu un dialogue forcément avec Dieu, même quand on n'y croit pas, comme moi, je pense que... Mais on est un peu forcément obligé à un moment donné quand même de l'envisager, cette histoire. Même si on n'est pas religieux, on peut rester complètement spirituel et évidemment se poser la question de par quoi on peut remplacer ce qui nous a fondés depuis 2000 ans, à savoir la culture judéo-chrétienne. Donc, je me suis un peu amusé dans Dieu en personne, mais pas que amusé, c'est-à-dire que c'est peut-être un portrait de Dieu en creux à travers le regard que porteraient les hommes sur cette grosse fake news qu'est cette matérialisation, cette incarnation de Dieu. Je ne parle pas de Jésus, hein, je parle d'un Dieu qui serait imagé, qui serait mis en, comme ça, un peu en communication, justement, pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas si on a répondu bien à la question. Enfin, on répond des fois à des questions par d'autres questions.
Non, je passe.
Bonjour. J'ai découvert votre travail assez récemment aussi et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de travailler seulement avec le noir et le blanc.
Alors le noir et blanc, bah, j'ai toujours fait comme ça depuis le début, depuis que j'avais commencé à faire quelques bandes dessinées à l'adolescence. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Encore une fois, mon dessin n'est pas un dessin qui raconte quelque chose en soi, en lui-même. Il y a des auteurs de bande dessinée qui font du dessin qui raconte déjà quelque chose. On pourrait citer des gens comme Igor, David Prudhomme, Blutch, Bastien Vives. Bon, il y en a beaucoup d'autres qui font vraiment œuvre de dessin. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de texte, on est embarqué par un trait. Le trait raconte déjà quelque chose. Ce n'est pas mon cas. Moi, je m'inscris complètement dans une tradition de ligne claire, qui est une autre vérité de la bande dessinée, et qui est une tendance à faire quasiment du dessin invisible, en fait. C'est-à-dire que le dessin n'est pas fait pour être vu, il est fait pour être lu. Donc, vous voyez, c'est très différent. Et donc, dans ce cadre-là, bon... Là, j'explique théoriquement ce truc-là, mais j'ai mis un peu de temps à le saisir. Évidemment, quand on fait du noir et blanc comme ça aussi jeune, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, mais ça s'est révélé petit à petit. Mais ce noir et blanc, de la même manière qu'encore une fois, un texte dans un livre, dans un roman ou dans un poème édité, le texte va être en noir et blanc, on ne se pose jamais la question pourquoi les textes dans un livre est en noir. De la même manière... Dans la bande dessinée, on devrait pouvoir ne pas se poser cette question-là, dans la mesure où un dessin qui est du signe, qui est plus du graphisme qu'autre chose, vous voyez, je reviens à cette ergonomie. Vous voyez, c'est un peu logique que ce soit en noir et blanc. Après, il peut y avoir dans ce noir et blanc, dans ce dessin purement technique presque, pratique, un dessin appliqué, il peut y avoir des belles choses. Des belles choses peuvent s'en extirper de la même manière que dans un livre. Une belle typo peut être belle à voir. Il peut y avoir aussi des lettrines qui peuvent être assez belles, etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que toujours dans cette idée d'ellipse qu'on parlait tout à l'heure, cet espace où le lecteur va pouvoir réinterpréter, il m'a toujours semblé intuitivement d'abord et puis ensuite plus rationnellement que les aplats noirs et les aplats blancs étaient des champs de liberté à l'interprétation du lecteur. Et tous les grands auteurs de bande dessinée qui m'ont accompagné, qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé, n'ont eu de cesse de me le prouver. Un exemple, si on regarde, que je donne souvent, parce qu'il est magnifique, c'est Hugo Pratt qui dessine Fable de Venise. Et bien dans Fable de Venise, vous verrez que y a toute une partie du récit qui se passe la nuit, mais le ciel est blanc. Donc, le ciel est blanc, il y a juste la lune. Et donc, et par contre, Hugo Pratt raconte la nuit dans Venise uniquement avec des ombres projetées qui ne sont pas du tout des ombres justement provoquées par le soleil, mais provoquées par la lune. Donc Hugo Pratt a le génie, l'intuition d'installer une nuit complètement incroyable, complètement particulière, qui se situe ni dans le réel ni dans le rêve, mais entre les deux. Donc là, on est vraiment dans de la poésie pure. Et cette poésie, elle est générée par un noir et blanc le plus simple qui soit, le plus minimaliste qui soit. Donc on est presque dans, on dirait, dans un arte povera, vous voyez, qui se transcenderait dans une esthétique qu'on pourrait même parler d'éthique du dessin. C'est vraiment magnifique. Et donc ça, c'est une des vérités de la bande dessinée. Je pense que Hugo Pratt va utiliser quelques traits de la même manière que les grands poètes vont utiliser juste deux, trois mots pour ouvrir une porte à notre imaginaire. Quoi. C'est vraiment c'est un cadeau. Quoi. C'est un cadeau qui est fait au lecteur. Le lecteur va voir des choses que peut-être même Hugo Pratt n'a pas mises, évidemment.
Oui, bonjour. J'avais une question du coup qui portait plus sur l'aspect aussi qui ne revient pas beaucoup en fait, l'aspect cinématographique dans votre œuvre. Et je voulais savoir en fait si vous aviez des œuvres cinématographiques qui vous aviez influencé ou alors que c'était par exemple dans votre errance quelque chose que vous aimeriez explorer. Notamment, je pensais à votre ligne claire qui pourrait très facilement être transcrite en animation et aussi ce côté noir et blanc qui peut faire partie aussi d'un imaginaire cinématographique très fort. Donc voilà, je voulais savoir votre avis là-dessus.
Oui, bien sûr, le cinéma, c'est une source de... Ouais, de forcément, hein, le XXe siècle, on dit que c'est le siècle du cinéma. Bon, on peut dire aussi que c'est le siècle du jazz. Mais bon, c'est le cinéma qui a pris le pouvoir. Bon, je pense que ce cinéma a pris le pouvoir parce que le cinéma est fascinant. Trop fascinant, sans doute. On en parlera peut-être cet après-midi avec Kafka. Voilà. Parce que Kafka disait « Le cinéma est une fenêtre au volet de fer. » Et effectivement, il y a toute une partie du cinéma, c'est ça. Parce que le problème du cinéma, c'est qu'il nous enchasse dans un temps donné et que malheureusement, il nous empêche de nous poser et de nous échapper dans une rêverie, contrairement justement au ciel blanc de nuit du Pratt. Mais sinon, quand on a dit ça, pour revenir à votre question, effectivement, graphiquement, dans la force évocatoire de ces images, l'expressionnisme allemand, c'est au niveau justement là, du Pratt. C'est-à-dire qu'avec des aplats noirs, avec des lignes, de simples dispositifs fixes, le regard s'évade. Moi, le grand film que je pourrais citer pour résumer tout ça, c'est La nuit du chasseur. Bon, c'est souvent un film qu'on cite énormément. C'est un des films les plus cités quand on parle de cinéma. Et c'est normal parce que c'est un film qui synthétise tout. C'est-à-dire que c'est à la fois de la littérature, c'est à la fois du théâtre. C'est aussi de la musique, ça pourrait presque être, il y a presque un côté même peut-être une qualité de comédie musicale par moment. Donc il y a comme ça une œuvre totale qui réunit beaucoup de facettes, à la fois des arts visuels et puis aussi de l'art musical. Donc là on est dans un... Et le film de Lofton, La nuit du chasseur, il s'échappe évidemment du cinéma. À un moment donné, il fait autre chose. On voit bien qu'il ne voulait pas faire un film, en fait. Il voulait faire un conte. Et il a utilisé le cinéma parce que lui-même était dans le monde du cinéma. Mais il a fait autre chose que du film. Il a dépassé le cadre du cinéma. Donc oui, ça, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. Pas pour m'en inspirer, matériellement ou graphiquement, mais simplement pour le plaisir de voir quelque chose qui échappe au cadre. Voilà, on a un cadre, c'est le cadre de l'écran, et évidemment, on va travailler sur leur cadre, on va essayer de s'en échapper. Un petit peu comme évidemment la bande dessinée aussi.
Moi, j'ai l'impression que c'est le propos de toute ton œuvre. Le temps passe tout doucement. Je crois que nous allons nous quitter dans pas très longtemps. Moi, j'avais juste une dernière question, en fait, pour répondre à cette espèce de mystère que finalement on a à peine réussi à survoler pendant cette heure-là. On est bien d'accord. Je parlais de la citation au début de l'heure. En fait, on est bien d'accord que Marianne Mucciati, elle n'existe pas.
C'est une citation. Elle n'existe pas aussi. C'est une citation que j'ai trouvée, effectivement, comme toi. J'ai essayé de trouver cette personne sur Internet et j'ai jamais réussi à. Mais c'est, ça se trouve, c'est peut-être une personne qui a dit ça un jour et puis ça s'est transmis. Et en fait, on a perdu en fait, ouais. La source, on a perdu l'horizon. Par donc voilà, hasard, c'est, ça c'est quelqu'un qui continue d'exister, bizarre, mais ouais. Qui n'est pas connu. Ouais. Oui, on peut exister et finalement ne pas être connu.
Comme le dessin ça, invisible de que tu évoquais tout à l'heure.
Voilà.
Le dessin
invisible. Exactement. Voilà.
Bon, ben, bienvenue pour un prochain siècle de découvertes de Marc-Antoine Mathieu. On n'a pas fini de faire le tour de l'artiste. Merci à vous, merci Marc-Antoine pour cette magnifique heure passée en ta compagnie.